Il est 18h dans le studio Kalangou. Le journal, c'est dans une présentation de Nafis Adam Sirfou. À présent, les titres. Sensibilisation à l'albinisme ce matin à Niamey par l'Association nationale des albinos du Niger dans le cadre de la journée internationale célébrée le 13 juin dernier. À suivre la présidente de cette association sur la stigmatisation des albinos dans la société nigérienne. Le manque d'eau au robinet constaté ces derniers jours dans plusieurs quartiers de la capitale inquiète les habitants. Vous entendrez la réaction de quelques-uns ainsi que celle du directeur du patrimoine et du contrôle des exploitations de la SPEN sur les régions qui explique cette corvée. Dans la partie magazine, nous parlerons de la gestion des conflits fonciers par la commission foncière de Tessawa, c'est dans la région de Maradi. Bonsoir à tous. Le Niger célèbre ce 19 juin la 4e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Le thème retenu est « Faire briller notre lumière sur le monde ». Kadijatou Moumouni, présidente de la dite association, est au micro de Moutari Mahmadou.
C'est en fait une journée qui a été instituée par les Nations Unies dans le but de pouvoir sensibiliser les communautés par rapport à l'albinisme. C'est quoi même l'albinisme? Et par rapport aux droits même des personnes atteintes d'albinisme en tant qu'être humain. C'est aussi une journée qui permet aux organisations œuvrant dans le domaine de l'albinisme, c'est-à-dire les organisations de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme, de faire le plaidoyer à l'endroit des États, des partenaires, pour vraiment, pour que ces personnes-là soient prises en compte. C'est vrai, c'est des personnes, ils ont des droits généraux, les droits humains dont bénéficie tout le monde, mais ils ont aussi des droits spécifiques en raison de l'handicap que ces personnes ont. Oui, je pense que l'albinisme est classé parmi la catégorie de handicap au Niger et dans de nombreux pays aussi, parce que l'handicap c'est quoi? C'est l'interaction entre les déficiences et les barrières qui constituent le handicap. Et l'albinisme, c'est le cas aussi.
Le personnel de la maternité Isaac Gazobi de Niamey, réuni au sein des organisations syndicales de la dite maternité, à savoir le SUSAS, le Saint-Famed et le SMES, n'est pas content de ses conditions de travail. Ce matin, le même personnel s'est mobilisé pour exprimer son ras-le-bol et dire non, je cite, à la mauvaise gestion du directeur général de la maternité. Écoutons Mahamadou Abdoulaye, délégué du personnel de la maternité Isaac Gazobi.
Au lieu de porter secours à la population, les soins sont devenus un danger pour la population. Du fait tout simplement de mauvaises conditions de travail, du manque de beaucoup de matériel, du manque de beaucoup de consommables médicaux indispensables à soigner la population. Donc c'est ça aujourd'hui qui nous a permis de sortir et de dire non, que nous en avons assez pour ne pas être complices de cette situation. Ils nous avaient lancé un ultimatum à la date du 22 février où des engagements ont été pris. Nous avions constaté que l'administration a joué au dilatoire. En réalité, aucun problème n'est solutionné. Ils veulent nous utiliser, nous amener à la table pour que nous soyons complices. Eh bien, nous avions décidé de nous retirer de ce processus de négociation. Et c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui faire cette déclaration. Il y a des exigences, dont principalement le départ du directeur général, le remboursement des frais liés à la gratuité. Nous avions interpellé le ministre à ce qu'il prenne ses responsabilités pour que cette maternité devienne vraiment le vrai centre national de référence. Donc, si toutefois ces revendications ne sont pas satisfaites, nous allons utiliser de tous les moyens légaux à notre position pour aboutir à ces revendications.
Notez que nous avons tenté d'avoir la version du directeur général de la maternité Gazobi sur cette situation. Il nous a notifié qu'il réagira au moment opportun. 10 enfants atteints de la rougeole sont hospitalisés dans un camp aménagé au centre de santé intégré du quartier Carré-Corbeil d'Arlit. Une campagne de vaccination est prévue la semaine prochaine pour les enfants de 6 mois à 14 ans pour la prévention de cette maladie avec l'appui technique de MSF. Major Mahazo Ali Sofo du district sanitaire d'Arlit explique au micro de Ousmane Oumarou.
La rougeole est une maladie assez complexe. À notre connaissance, dans le temps, elle atteint les enfants qui n'ont pas été vaccinés à la naissance. Mais de nos jours, elle atteint même les grandes personnes. Une campagne de vaccination contre la rougeole sera organisée à Arlit par le district sanitaire avec l'appui des partenaires. Les enfants de 6 mois à 14 ans seront gratuitement vaccinés et nous sollicitons la collaboration de tous pour atteindre l'objectif. Présentement, le CSI du quartier Carré est retenu pour isoler ceux qui sont atteints par cette maladie. Ils seront pris en charge à 100% et gratuitement avec l'appui du médecin sans frontières. Donc, il ne faut pas hésiter à amener les enfants dès l'apparition des signes de la maladie. Actuellement, il y a entre 8 et 10 enfants malades qui sont retenus dans ce CSI du quartier Carré.
Le président de la République, Issoufou Mahamadou, séjourne depuis dimanche à Rome, en Italie, où il participe du 18 au 21 juin à la réunion de haut niveau sur le Sahel, organisée dans le cadre de la session annuelle du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial PAM. Au cours de la rencontre, le Niger et le PAM conviennent d'élaborer et de mettre un programme conjoint pour lutter contre la pauvreté et éliminer la faim, la scolarisation de la jeune fille, la maîtrise de l'eau, la maison du paysan et la restauration des terres restent aussi des priorités dans le cadre de ce partenariat, a fait part le président de la République à David Besley, le directeur exécutif du PAM. Je l'annonçais dans les titres, manque d'eau au robinet ces derniers jours dans plusieurs quartiers de Niamey, une situation difficile, incomprise par les habitants, dont certains parcourent des distances non négligeables à la recherche du précieux liquide. Voici quelques réactions recueillies par notre reporter Alamin Ouachar.
Parce que ici, toute la journée, il n'y a pas d'eau. La nuit, il n'y a pas d'eau. Les gens sont en train de souffrir. Donc, nous demandons au gouvernement qu'il doit avoir des décisions. Parce que nous souffrons. Donc, il doit tout faire. Parce que vraiment, ici, même si les gens voulaient aller au fleuve pour cesser l'eau, il n'y a pas d'eau. Même au fleuve. Ici, là, tout le monde savait que le fleuve est plein de sable. Comme le fleuve est plein de sable, il n'y a pas d'eau.
Nous avons des difficultés pour avoir de l'eau. Moi qui vous parle à cet instant, depuis 22 heures jusqu'à 2 heures du matin, je suis à la recherche de l'eau. Je n'ai pu avoir que 10 bidons à peine. Et si tu veux acheter un bidon auprès des revendeurs d'eau, il va falloir débourser 100 francs pour un bidon de 20 litres. Le fleuve n'a plus assez d'eau. Depuis le village de Yassine jusqu'ici à Niamey, on constate l'étiage du fleuve. Moi, personnellement, j'ai vu de mes propres yeux des conducteurs de motos traverser le fleuve et passer.
Cette situation de manque d'eau est préoccupante dans plusieurs quartiers de la capitale. À cet effet, la Société du patrimoine des eaux du Niger SPEN et la Société d'exploitation des eaux du Niger SEN ont expliqué les raisons et les dispositions prises pour y remédier. C'était hier à l'usine de traitement d'eau de Goudel. Sadiku Mahamadou, directeur du patrimoine et du contrôle des exploitations de la SPEN, explique au micro de Gungu Mahamad Antani.
La qualité de l'eau, suite à l'arrivée des premières pluies, a brusquement changé. Avec 5000 NTU, une unité compacte qui a une capacité de 15 000 m3 jour et à l'arrêt depuis le 2 juin parce qu'elle ne peut pas supporter les 5000 NTU. Elle a une capacité à l'entrée de 250. Non seulement cette unité-là n'est plus fonctionnelle, mais les autres grandes filets de traitement ne peuvent pas fonctionner en plein régime. Nous sommes contraints, avec la boue qui arrive, de faire des entretiens très fréquents et de mobiliser tous les techniciens de la SPEN et de la SEN qui sont aujourd'hui à pied d'œuvre pour assurer l'approvisionnement en eau de la ville de Niamey. L'eau est très turbide. Il faut à un certain moment nettoyer, curer les bassins pour arriver à avoir un bon traitement. Nous avons fini le curage de deux bassins. Nous pensons que, Inch'Allah, nous allons pouvoir résorber le déficit et que le jour à venir, la situation va redevenir comme elle était avant. Et je demande donc à tous les usagers de modérer leur consommation, de consommer que pour les besoins vitaux.
Les 629 migrants de l'Aquarius refusés par l'Italie et Malte ont été finalement accueillis dimanche par l'Espagne, une situation qui a plongé les dirigeants européens dans une polémique marquée par une passe d'armes diplomatique entre Paris et Rome. Le silence des États africains face à la façon dont sont traités leurs ressortissants migrants suscite l'indignation des acteurs intervenant dans le domaine de la migration. Pour Hassan Boukar d'Alternative Espace Citoyen, le manque d'une opinion publique sensible aux questions migratoires explique ce silence. On l'écoute.
Ce silence n'est pas surprenant, puisque ce n'est pas pour la première fois qu'il y a une question de cette ampleur qui concerne les migrants en Méditerranée. On a connu des situations encore plus dramatiques avec beaucoup de morts en Méditerranée. Mais chaque fois, il y a eu très peu de réactions des dirigeants africains, continent à partir duquel la plupart des migrants partent. C'est le cas de l'Aquarius que vous évoquez. Ces migrants sont partis des côtes libyennes. Et selon les informations, les 629 migrants seraient entre autres des Érythréens, des Soudanais, des Nigériens, donc un peu de plusieurs pays d'Afrique. Évidemment, au moment où en Europe, vous avez toute une polémique sur le fait que certains pays comme l'Italie ont refusé d'accueillir ces migrants en Afrique, pays à partir desquels les migrants partent, vous avez ce silence-là. Et je pense que c'est peut-être dû au fait qu'on n'a pas une opinion publique très sensible sur ces questions-là. Là où vous avez une opinion publique qui demande des comptes aux dirigeants, eh bien les dirigeants se sentiraient obligés de réagir.
Propos recueillis par Mokhtar Hamadou, disport dans ce journal, la deuxième édition de la Coupe Alphaga de Taekwondo, c'est du 23 au 24 juin prochain à Niamey, avec environ 600 athlètes d'une dizaine de pays attendus. En prélude à cette compétition internationale, 50 entraîneurs nigériens de Taekwondo seront formés à partir d'aujourd'hui, mardi, à Niamey, à l'initiative du coach d'Alphaga, Marcus Kloffel. Le premier vice-président de la Fédération nigérienne de Taekwondo parle de l'importance de cette formation. Sileman Boubacar, que je vous propose d'écouter au micro de Soumane Amadou.
C'est d'aider nos coachs à arriver à un certain niveau de compréhension de la compétition internationale. Comprendre les règles qui régissent cette compétition internationale. Comprendre comment il faut gérer les athlètes, comment il faut les mettre dans le moule de façon à ce que ces athlètes puissent répondre au niveau international. Et il faudrait que nos coachs puissent parvenir à un certain niveau de compréhension de la compétition internationale, connaître les bases du coaching, savoir comment gérer les athlètes en compétition ou hors compétition, avant compétition, pendant les trainings, connaître comment prendre en charge un athlète de haut niveau. Et vous savez que Marcus, il est considéré comme l'un des meilleurs coachs en ce monde et son centre est pratiquement le seul centre agréé par notre fédération internationale en termes de qualité de management, en termes de qualité de formation des athlètes de haut niveau.
À présent, la partie magazine de cette édition, les structures du code rural restent méconnues de bon nombre de Nigériens faute de sensibilisation et d'informations adéquates. C'est le cas dans le département de Tessawa, région de Maradi, où le secrétaire permanent de la commission foncière a accepté de nous parler de la mission, de l'organisation et du fonctionnement de la COFODEPA de Tessawa, dont il a la charge. Sani Lawali au micro de Mokhtar Hamadou, un reportage dans la zone.
Au niveau du département de Tessawa, nous pouvons avancer que par rapport à la gestion foncière, à la commission foncière, vraiment les activités se passent normalement. La gestion des conflits sur le plan général s'est fait à différents échelons. Au niveau du département, il y a la commission foncière départementale qui est là, qui a des structures au niveau des communes où nous avons des COFOCOM et au niveau de la base, nous avons ce qu'on appelle des commissions foncières de base. Donc, de façon générale, s'il y a des conflits, et ça se règle à ces différents échelons. Au niveau de la base, en présence d'un conflit, il y a trois types de procédures de règlement de conflit. Il y a un règlement de conflit à l'amiable qui se fasse donc entre deux personnes en litige. Si ça n'aboutit pas, donc on vient au niveau de la COFOP où c'est le chef du village qui est président de cette commission où on passe au stade de la conciliation. Donc si la conciliation échoue, généralement ils font ce qu'on appelle un PV de non-conciliation qu'ils transmettent au niveau de la chefferie traditionnelle, au niveau des chefs de canton ou chefs de groupement qui à leur tour vont essayer de faire la conciliation. Si ça aboutit, c'est bon. Dans le cas échéant, ils aussi ils font ce qu'on appelle un PV de non-conciliation qu'ils transmettent au niveau du tribunal d'instance, qui à son tour essaie de faire le jugement. Si ça a réussi, c'est bon. Le gars qui se voit lésé aussi, il peut faire appel au niveau du tribunal de grande instance jusqu'à la cour de cassation. Mais de façon générale, au niveau de Tessawa, presque les conflits se règlent à travers des conciliations. Rare qu'on arrive vraiment au niveau de la justice.
Comment se porte le département de Tessawa en termes de résolution des conflits par rapport aux autres départements que compte la région du Maradi?
D'après les statistiques sur le plan régional, là où il y a plus de conflits généralement, c'est dans le département de Madarumfa et celui de Guidorouji. Et ceci est dit à leur proximité, surtout avec le Nigeria et au foncier qui est de plus en plus rare, surtout c'est des zones où les terres agricoles sont tellement restreintes, il y a beaucoup de population à ce niveau. Mais au niveau de Tessawa, nous venons en quatrième position après Dakoro par rapport au problème foncier.
C'est ici que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite une rediffusion du forum sur le cancer de la prostate avec Alassane Kouzi Mahamadou. Bonne écoute.